Radio Kapi.
Oh, Kapi.
À l'écoute de Radio Kapi, il est 12h à Kinshasa. Voici un nouveau journal. Convocation demain mardi d'une session extraordinaire à l'Assemblée nationale ici à Kinshasa. Au menu, l'installation du bureau définitif, l'examen de quelques lois de ratification et s'assurer le contrôle parlementaire. Quid de la reprise des cours en RDC? Une rencontre est programmée aujourd'hui ici à Kinshasa entre le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Dr Mouyembe, pour en débattre. En réaction, le promoteur culturel Jean-Marie Tantoumeï s'oppose au retour des enfants à l'école alors que les mesures contre la deuxième vague du coronavirus n'ont pas été levées. Notre invité, c'est le coordonnateur de la protection civile de la région de Beni au Nord Kivu, Jean-Paul Okapitula, parle de 40 000 ménages de déplacés et des efforts consentis pour les assister. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Madame, messieurs, bonjour au micro. Pascal Massirika, mise en nom de Dieudonné Nyangasa. Convocation demain mardi de la session extraordinaire à l'Assemblée nationale, conformément aux articles 100, 111, 112 et 116 de la Constitution. Une plénière est même fixée pour adopter le calendrier de la dite session, affirme le rapporteur du bureau d'âge qui précise que cette session extraordinaire ira jusqu'au 3 février prochain. Pour Gaël Boussa, il sera question d'installer le bureau définitif de l'Assemblée nationale, d'examiner quelques lois de ratification et s'assurer le contrôle parlementaire. Il est au micro de Michel Kifindangoy.
Le président, vu la Constitution, vu l'arrêt de la Cour constitutionnelle portant prorogation et habilitation du bureau d'âge de l'Assemblée nationale et à assurer sa gestion courante jusqu'à la mise en place d'un bureau définitif, considérant l'urgence d'autoriser la ratification des accords conclus par la République démocratique du Congo, considérant la nécessité de garantir la pratique de la bonne gouvernance par le contrôle parlementaire, décide, article 1er, l'Assemblée nationale est convoquée en session extraordinaire du 5 janvier au 3 février 2021. Article 2, l'ordre du jour de la session extraordinaire comprend les matières ci-après. 1. Poursuite de l'examen des pétitions à charge d'un membre du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Élection et installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Projet de loi de ratification et contrôle parlementaire.
Politique encore, hier dimanche à la Cité de l'Union africaine, ici à Kinshasa, plus de 300 députés nationaux ont réaffirmé leur allégeance au président de la République. Après un discours de 25 minutes prononcé par Félix Tshisekedi, le porte-parole de la plateforme Ensemble pour les changements a réaffirmé la détermination du regroupement cher à Moïse Katumbi-Tchapwe d'appuyer l'action du chef de l'État, notamment au sein de l'Assemblée nationale, pour contribuer au changement dans le pays. Christian Mwando encourage donc le chef de l'État à aller de l'avant pour le bonheur du peuple congolais, dit-il. On écoute un extrait de son allocution proposée par Michel Kifindangoy.
Monsieur le Président de la République, chef de l'État, notre détermination est celle d'obtenir le changement dans notre pays, le changement de la vie de notre peuple, les réformes de notre État et retrouver la fierté d'être congolais. Notre groupe, sous le leadership de Moïse Katumbi, votre frère, complétera son cahier de charges sur celui qui vous a remis lors de consultation. De la prise en compte de nos préoccupations qui seront contenues dans ce cahier de charges, nous scellerons notre partenariat avec notre groupe politique. Notre groupe politique est préoccupé par l'amélioration de la vie quotidienne des Congolais sur le plan économique, social et particulièrement sécuritaire à l'est de notre République. Tant que votre volonté d'aller de l'avant et de redresser notre peuple sera présent, vous pourrez compter sur les députés MS et G7 et les députés AMK et alliés pour vous accompagner.
Par contre, le Front commun pour le Congo FCC condamne la désignation unilatérale par le président de la République d'un informateur chargé d'identifier une majorité parlementaire qui, selon lui, existe déjà et en l'absence de la démission du Premier ministre. Dans leur déclaration d'hier dimanche, ici à Kinshasa, les présidents des regroupements politiques membres du FCC s'opposent à toute forme de dérive totalitaire constatée ainsi qu'à toute forme de haine sur base d'appartenance ethnique ou même politique. Le FCC dénonce ainsi le comportement affiché par le président Félix Tshisekedi Tshilombo, consistant à se former comme la source de légitimation des autres institutions du pays que sont le Parlement, le gouvernement et les cours et tribunaux. Des précisions avec le porte-parole du FCC, Félix Kabange Numbi, est au micro de Michel Kifindangoy.
Nous sommes démocrates et en tant qu'homme d'État, nous disons, nous allons par des méthodes tout à fait légales. Au-delà du fait que nous condamnons la désignation de l'informateur pour identifier une majorité qui existe déjà, nous disons également que nous allons nous opposer par toutes les voies légales. S'il faut engranger et aller faire appliquer l'article 64, nous allons le faire. Et nous appelons le peuple congolais à la résistance. Nous ne pouvons pas laisser s'installer une dictature dans notre pays. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a un purgatoire, il y a une blanchisserie qu'on vient de créer, qui s'appelle Union Sacrée de la Nation. Si vous êtes poursuivi par la justice, adhérez et vous serez blanchi, vous ne serez plus coupable. Mais si vous restez dans le FCC, même si vous êtes condamné pour un bic, vous serez obligé d'aller en prison. Et nous disons que nous ne tolérerons à aucun prix un tel recul démocratique.
Autre nouvelle sur Radio Okapi. Y aura-t-il reprise des cours demain, mardi ou pas? Les parents d'élèves se posent cette question. Certains d'entre eux qui ont saisi la rédaction de Radio Okapi estiment que l'annonce faite à ce propos par le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, notamment sur les antennes de votre radio, n'est pas claire. Willy Bakonga affirmait, je le cite, sauf avis contraire du ministère de la Santé publique, la reprise des cours est fixée au mardi 5 janvier 2021. Fin de citation. Salandi, un tweet de Eduk TV, la télévision du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, cité par notre consoeur actualité.cd, annonce la tenue salandi à Kinshasa d'une réunion entre le ministre Willy Bakonga et les coordonnateurs du secrétariat technique de riposte contre le coronavirus, docteur Jean-Jacques Mouyembe. Selon la même source, c'est en vue de définir les modalités pratique pour la reprise des cours annoncée par le ministre Willy Bakonga pour demain. Pour rappel, c'est depuis le 18 décembre dernier que les élèves ont été envoyés en vacances anticipées des fêtes de fin d'année en raison du couvre-feu décrété sur l'ensemble du pays par les autorités pour éviter la propagation de la deuxième vague de la pandémie. En réaction, Jean-Marie Tantoumeï, promoteur culturel, ancien ministre des Transports et député national honoraire, s'oppose à l'annonce du ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique de retourner les enfants à l'école demain mardi alors que la maladie est toujours là et que les mesures prises pour lutter contre la deuxième vague du coronavirus n'ont pas été levées. On l'écoute au micro de Pelékipé Lamondo.
Nous sommes très surpris, voire scandalisés, d'entendre le ministre de l'EPST annoncer une rentrée scolaire pour ce 5 janvier 2021, alors que toute réunion de plus de 10 personnes demeure encore interdite. Comment peut-on permettre aux élèves de reprendre le cours, eux dont la plupart se mettent à trois sur un même banc? La distanciation sociale n'est pas du tout respectée. Pendant la récréation, les enfants vont s'amuser sans aucune discipline. Pourquoi veut-on sacrifier les enfants sur le banc de la démagogie? Les enfants ne sont pas des cobayes. La COVID-19 est dangereuse et la deuxième vague est plus terrible que la première. Le BAC, dans sa mission d'éveil des esprits et des consciences, dénonce cette attitude démagogique du ministre de l'EPST et invite les parents à ne pas libérer leurs enfants pour reprendre le cours en cette période avant que le chef de l'État ne puisse revoir les mesures annoncées avant les vacances de Noël.
Et puis, le gouvernement est appelé à compatir avec la population de Beni au Nord-Kivu d'une manière appropriée. C'est le cri de détresse d'un élu provincial du territoire de Beni qui a décidé de s'implanter dans le secteur de Rouenzori où le massacre répétitif de la population a été enregistré les deux dernières semaines de 2020. Pour Saïdi Balikwisha, vu la misère que traverse la population de cette région, le gouvernement devrait la déclarer zone sinistrée. Il a été joint par Marc Marofimbo.
La meilleure façon de compatir avec la population de Beni serait de reconnaître à ce territoire comme étant une zone sinistrée. Comme ça, là, on va connaître les allégements fiscaux on va les épargner au paiement de certaines taxes, droits, impôts et redevances. Et je crois avec ça, le gouvernement aura déjà combattu avec la population. Mais avec la misère que je suis en train de constater à Mutuanga, à Nzenga, à Mulongo, à Lume, à Bachu, alors dire que non, l'État va continuer à recouvrer ses droits sur ces populations qui sont meurtries. Je crois que ça ne sera pas une bonne stratégie. C'est pour laquelle, dans le premier volet, j'ai demandé à ce que le président de la République, qui est le commandant suprême, voie comment prendre à main cette situation de Beni.
Pendant ces temps au Sud Kivu, des habitants du territoire de Kabaré ont manifesté hier lundi pour dénoncer la montée de l'insécurité dans les groupements d'Irambi Katana. En l'espace de 2 semaines, en effet, 3 personnes ont été tuées dans cette zone. Dernier cas en date, c'est une femme commerçante qui a été tuée par balle dimanche par des bandits armés à son domicile. Selon le président de la société civile locale, le présumé auteur de cette insécurité serait un allié du chef rebelle Chance, qui a été libéré récemment de la prison centrale de Bukavu. Emmanuel Mengeya s'est confié à Cynthia Bachizi.
L'insécurité est de retour dans le groupement d'Irambi Katana. Et seulement dans 2 semaines, nous venons d'enregistrer 3 cas de mort. Ce sont des morts orchestrées par les hommes en armes. Les derniers cas datent de la nuit du samedi à dimanche. Une femme a été tuée par ses inciviques. Et c'est pourquoi là, nous avons condamné la libération d'un allié de Chance qui est présumé auteur de sécurité dans les territoires de Kabare et particulièrement dans le groupement d'Irambi Katana, libéré pour une cause que la population ignore toujours. Et donc nous avons regretté parce que la journée d'hier, il y avait vraiment une vive tension. La population a barricadé la route dans le centre d'Irambi Katana uniquement pour dénoncer cette insécurité. Et nous avons alerté les autorités et leur demandé de qu'elles puissent prendre des préventions par rapport à cette insécurité qui venait de rentrer dans les groupements d'Irambi Katana.
Non loin de là, au Maniema, la pluie accompagnée d'un vent violent qui a secoué la ville de Kindu le soir du 1er janvier 2021 a causé d'importants dégâts matériels. Dans la commune de Mikelenge, par exemple, l'université Mapon a perdu sa toiture. Ces intempéries ont également endommagé la toiture de l'Institut Saint-Gaston. Le préfet de l'établissement plaide pour une assistance d'urgence des bonnes volontés et des autorités en vue de réhabiliter ces salles de classe avant la reprise des cours. Thomas Fataki est au micro de Florence Kiza Lunga.
Nous avons une triste nouvelle, celle de lancer les cris d'alarme dans le sens que notre école était victime de vents violents d'hier qui a emporté la toiture de nos 4 salles de classe. C'est pourquoi nous éprouvons cette difficulté. Nous voulons ici supplier aux hommes de bonne foi, surtout nos élus, nos autorités provinciales et en particulier comme notre père Alexis Tambwe-Mamba est présentement à Kindu. Nous lui prions aussi de nous venir en aide pour que la réhabilitation de l'école s'efface avant que la rentrée n'intervienne.
Économie à présent avec la hausse de prix du carburant en Mbujimayi. Nous sommes au Kasaï oriental. Le litre d'essence qui coûtait il y a 2 semaines 2600 francs congolais se vend actuellement à 3300 francs congolais. Cette hausse de prix influe déjà sur les prix de transport en commun. Une course en ville fixée à 500 voire 1000 francs congolais se négocie maintenant à 1000 ou 1500 francs congolais. Le président provincial de l'association des importateurs des produits pétroliers du Kasaï oriental justifie cette hausse par le manque de wagons citernes à la gare de la SNCC Lubumbashi pour acheminer leurs marchandises à Mweneditu par voie ferroviaire. Kalu Chitenda Kalula a été joint par Esther Ndalafina.
La situation était au niveau de Lubumbashi. Il n'y avait pas de wagons. On avait formé toute une rame qui devrait être jusqu'à Mweneditu. Et quand cette rame est arrivée à Mweneditu, à Lubumbashi, il n'y avait pas encore de wagons vides sur lesquels les gens pouvaient charger leurs produits. Les produits sont à Lubumbashi, mais comme on attendait déjà presque à la fin de l'année, chaque personne pouvait se contenter de rentrer chez lui. Et c'est ainsi qu'il n'y a pas eu du carburant et il y a eu la hausse du carburant. C'est plus que il y a aussi l'offre et la demande. Alors quand il y a beaucoup de demandes faites par les clients, c'est ainsi qu'il y a eu la crise maintenant. Alors tout justement, je vois que les wagons qui sont à la gare de la SEC de Manadi, tous sont en train de rentrer. Ainsi, peut-être à la fin de cette semaine, les gens seront à Lubumbashi. De préférence, si vous êtes à Lubumbashi, il n'y a pas de wagon, il n'y a plus moyen de faire le chargement. Que la population soit calme. Après 2 semaines, il y aura toujours les produits tels qu'on a toujours vendus.
Actualité internationale.
En République centrafricaine, alors que les résultats provisoires de l'élection groupée sont attendus aujourd'hui lundi, une coalition des groupes armés opère depuis près de 3 semaines dans le pays. Ils sont plutôt déterminés à empêcher l'aboutissement heureux du processus électoral. Hier dimanche, la situation était encore volatile dans le pays. La coalition armée a pris d'assaut la ville de Bangoussou au sud-est du pays. Dans la soirée, les versions sur la situation divergeaient. Le numéro 1 de la MINUSCA, Manker Ndiaye, a assurer, contrôler la ville et mener des patrouilles robustes. Et puis le lanceur d'alerte et fondateur du site Wikileaks, Julian Assange, sera confronté à la justice britannique le 24 février prochain lors d'une audience officielle qui va statuer sur son éventuelle extradition aux États-Unis. Le secrétaire général de Reporters sans frontières, Christophe Deloire, a même fait part d'un défaut de solidarité de la presse alors qu'il y a quelques années, les médias américains voulaient le mettre sous la protection du premier amendement et qui protège tous les journalistes.
L'invité.
À Beni, au nord Kivu, la situation des déplacés de guerre devient de plus en plus préoccupante. La ville compte plus de 40 000 ménages de déplacés. Quelle lecture le bureau de la protection civile fait de cette situation? Qu'est-ce qui est fait en leur faveur et qu'est-ce qui reste à faire? Les réponses avec le coordonnateur de la protection civile de la région de Beni, Jean-Paul Capitula, s'entretient avec Marc Maroufimbo.
Monsieur Jean-Paul Capitula, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Que dit la protection des civils de la région de Beni par rapport à la situation des déplacés qui envahissent déjà la ville et territoire de Beni?
D'abord, notre lecture, c'est que c'est une situation plus que grave et où on pouvait parler d'une situation catastrophique parce qu'on a constaté que depuis les vagues du 25 décembre où on a vu les populations de Boulongo se vider à cause de tout ce qui se passait à Lume et à Boulongo, et aussi de restes des attaques qui se faisaient dans les périphéries de Mutuanga, il y a eu un engouement qui s'était fait voir dans la semaine du 28 au 30. Mais l'attaque du 29 au 30 sur Mutuanga, Nzenga, a fait un afflux plus 4 fois grave que celui du premier, parce que les enregistrements que nous avons menés dans le cadre de la synergie sous le lead du maire de la ville de Beni, ad intérim, M. Modeste Bakwanama, il y a eu 11 015 ménages qui ont été identifiés déjà dans les 3 jours. Et aujourd'hui, au stade actuel, ce que nous assistons à partir du 30-31, c'est qu'il y a eu encore une augmentation plus grave de personnes qui viennent de Mutuanga, de Lume, de Nzenga, de Mwenda, de Kalembo, Muramba, des personnes qui nous viennent même dans les Kisima, Makisabu, les restes qui étaient dans les Loselose, Kinyambaore, Loulo, Kabalwa, ils se sont vidés sur la ville de Beni. Et aujourd'hui, c'est vraiment une situation plus que grave et que ça demande une solidarité nationale. Et une solidarité nationale qui doit se faire dans l'urgence parce que c'est une situation qui nous dépasse. Ça demande que tous ensemble, nous puissions avoir un œil sur cette question. Et c'est ce que le maire m'a mandaté de faire comme vibrant appel à tous ceux-là qui veulent venir en aide à la ville de Beni.
Oui, à l'heure actuelle, on peut dire qu'est-ce qui est déjà fait en faveur de ces déplacés?
En faveur de ces déplacés, d'abord, nous félicitons les familles d'accueil. Vous savez que la ville de Beni passe d'abord un calvaire parce que nous vivons aux dépens de ces périphéries de la ville. Ces agglomérations environnantes, la ville de Beni, c'est eux qui nous fournissent à manger. Mais entre-temps, il y a des attaques partout, à l'est, à l'ouest, au nord et au sud. Donc Beni est maintenant enclavé. C'est vraiment une difficulté. Quoique les populations font la solidarité d'accueil de ces ménages déplacés dans leur famille, mais il y a la question de manger, il y a la question de la promiscuité. Avec cette question aussi de coronavirus, nous pensons que c'est très très grave s'il y a contamination. Et donc, ce qui est fait, les familles d'accueil ont accueilli, nous avons dit félicitations à ces familles. Et ce qui est en train d'être fait, la synergie a enregistré une partie, c'est une bonne chose, mais nous faisons des plaidoyers aussi pour que nous puissions avoir des personnes de bonne volonté qui vont assister. Je crois que s'il y a des analyses rapides, ça va permettre aussi à ce que nous puissions connaître le besoin, que nous puissions connaître les défis et afin qu'on puisse découler certaines recommandations dans le cadre de l'assistance.
La ville déjà commence à être saturée. Ce matin même, j'ai été vers la partie de Mopanda. J'ai vu comment la situation est compliquée. Vous pensez, dans un premier temps, qu'est-ce qu'il faut faire rapidement pour se déplacer?
Rapidement, c'est de voir, j'ai dit parler de personnes qui sont sans abri, c'est de voir comment trouver l'espace où on doit abriter les personnes qui sont sans abri. La deuxième question, c'est de voir comment on pourra évaluer rapidement ce que j'ai dit pour voir ils sont combien au total, quels sont les besoins urgents et que faire. Ce sont là les grandes questions à se poser, mais on ne peut pas seul. C'est pourquoi je parlais de la solidarité nationale. Nous voudrions demander et solliciter, souhaiter au gouvernement central et le ministère précisément des Affaires humanitaires et solidarité nationale de voir comment diligenter des personnes qui viendront appuyer les efforts du maire qui, avec la synergie sur le mouvement et protection des populations, nous sommes en train de faire déjà les jalons. Et la deuxième chose, c'est de voir aussi le gouvernement provincial, voir comment aussi nous envoyer des hôtes pour venir aussi appuyer ces efforts. Et ici, on sollicite encore une fois ce genre de commission pour venir rester avec nous, évaluer totalement la question. Parce que ce n'est pas la prise à charge de déplacer qui sera la solution à la question. Mais la solution, c'est de voir ce qui nous agace, ce qui nous font fuir dans nos milieux, ce qui, et voir comment donner définitivement une solution à éradiquer cette question des guerres.
Jean-Paul Capitola, nous vous disons merci.
C'est moi qui vous remercie.
L'invité de Radio Capi que vous veniez de suivre, c'est Jean-Paul Capitola. Il est le coordonnateur de la protection civile dans la région de Beni au Nord Kivu. Il était interviewé par Marc Marofimbo. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir écouté. J'adresse une fière chandelle à Pélé Kipelamondo qui a supervisé cette édition d'information sur Radio Capi.